Sur Radio Campus Tour, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne, nous sommes ensemble pour une heure et avec moi en studio, deux étudiantes de l'IUT de Tours de carrière sociale. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Bonjour Ottilie.
Bonjour.
Et Bérénice, notre stagiaire de 3e. Bonjour Bérénice.
Bonjour.
Alors, mesdames, vous êtes venues dans ce studio pour nous parler d'un projet que vous avez mis en place dans le cadre de vos études carrière sociale. Alors, tout d'abord, est-ce que vous voulez nous expliquer en quoi ça consiste des études de carrière sociale à l'IUT de Tours ?
Alors, moi, j'ai décidé de faire ce DUT pour être animatrice socioculturelle. Donc, c'est plus large que les animateurs de centres de loisirs, c'est vraiment pour travailler dans le domaine du social, dans plein de structures comme les EHPAD, les centres sociaux, plein d'associations aussi. C'est vraiment pour être animateur socio-culturel.
Alors juste Mathilde, je rebondis sur qu'est-ce que vous entendez par socio-culturel ? C'est quoi la différence ? Qu'est-ce qui fait que c'est particulier ? Pourquoi cette démarche-là plus qu'une autre ?
Alors, avec nos cours qui sont vraiment pluridisciplinaires, on peut s'appuyer dessus pour s'adapter à plein de types de publics. On peut faire de la prévention, on peut s'adapter pour, par exemple, en EHPAD, travailler sur un public qui a des spécificités pour adapter son animation pour... je sais pas, en tout cas moi personnellement j'ai travaillé en EHPAD et j'ai fait des animations pour les aider sur la motricité à travers le coloriage, etc. On peut vraiment s'adapter au public, à ses spécificités, et on étudie beaucoup ça pour pouvoir apporter vraiment quelque chose au public et voilà.
Donc on rappelle qu'un EHPAD, il me semble que c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
C'est ça.
Voilà, donc il y a toutes les problématiques liées à l'âge, donc la motricité comme vous le dites, parce que c'est des personnes soit en fauteuil, soit ou autre, ou peut-être aussi des personnes dépendantes parce qu'elles ont une maladie comme Alzheimer.
Par exemple.
Et Ottilie, je me tourne vers vous. Alors, quel bon vent vous amène en carrière sociale à l'IUT de Tours ?
Alors, moi j'ai commencé par faire un service civique après le bac parce que je savais pas trop quoi faire. Et du coup, à l'issue de ce service civique, j'ai découvert en fait le DUT carrière sociale, ce qui m'a fortement amenée à poursuivre ces études dedans parce que c'était un domaine qui m'intéressait. Et du coup, je me retrouve ici et ça me plaît beaucoup. C'est une bonne expérience humaine et personnelle et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir travailler par la suite après en tant qu'animateur ou peut-être dans le social plus largement.
Et alors, à l'aune de votre formation, qu'est-ce qui fait, d'après vous, qu'un projet n'est pas juste un projet occupationnel de divertissement, ce qui est très bien en soi, hein, mais qu'il a cette fameuse dimension socio-culturelle ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait qu'un projet a cette dimension-là ? L'une comme l'autre, hein, vous pouvez répondre.
Bon. Disons que c'est hyper compliqué, je trouve, comme question, mais...
Je n'ai pas la réponse, hein, je le précise, ouais. je m'interroge.
je sais pas, moi je pense vraiment que la différence, c'est la connaissance du public, parce que ça crée le professionnalisme, et du coup, pour moi, c'est vraiment ça. Après, c'est totalement un avis personnel, je sais pas ce que t'en penses, Ottilie.
Ouais, c'est ça. Ce rapport d'éducation populaire qui reste quand même assez... qui reste dans ces projets-là, donc c'est aussi une dimension comme ça, je pense.
Et puis, à travers notre projet, on est vraiment dans... On essaye de transmettre quelque chose et d'échanger, et c'est là où c'est différent de l'occupationnel, dans le sens où on essaye d'apprendre d'eux et de transmettre quelque chose aussi. Voilà, c'est...
C'est un échange et un partage... des deux côtés, quoi.
Ouais.
Voilà, donc ce que vous dites, c'est qu'il y a une démarche intellectuelle, en fait, dans le projet. Le projet est pensé pour être adapté à un certain public. Et alors, vous avez dit éducation populaire, est-ce que vous voulez détailler ce que c'est? Parce que peut-être que tous les auditeurs ne le savent pas, ne savent pas ce que c'est l'éducation populaire, c'est quoi?
Alors, l'éducation populaire, c'est en fait le fait d'apprendre et de recevoir en fait des deux côtés de la personne comme de soi. Et c'est un échange constant de chaque personne. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Bah, c'est l'éducation par tous, pour tous. C'est vraiment tout le monde peut apprendre de tout le monde. Tout le monde a des choses à transmettre. Tout le monde a des choses à apprendre. Et c'est vraiment, on part sur un vrai échange entre les personnes. Et on ne part pas d'une hiérarchie où quelqu'un connaîtrait plus que l'autre. On a sur des domaines où on connaît plus de choses que d'autres personnes. Mais on a d'autres domaines où on peut apprendre à la personne. On a vraiment... tous quelque chose à apprendre de l'autre.
Donc ça casse le rapport pyramidal, si on veut, au savoir. Ouais. Donc, ouais. L'illusion peut-être que le savoir se distille d'une personne au-dessus des autres.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai vraiment l'image de, par exemple, dans les cours, on a les tables qui sont rangées avec une personne devant. Et c'est vraiment à chaque fois, quand les associations d'éducation populaire viennent à l'IUT nous faire des interventions, à chaque fois, ils cassent ces tables, ils les mettent sur le côté, on met des chaises, on se met des fois en cercle, des fois un peu plus ouvert, et on discute tous ensemble pour éviter que ce soit une personne devant les autres qui transmette quelque chose de très descendant, quoi.
Mais ça change peut-être l'attention aussi et l'implication des gens, parce que, bon, soyons honnêtes, à qui ça n'est pas arrivé d'avoir l'esprit vagabonde pendant un cours, quand quelqu'un harangue la foule là, au premier rang, et là, en fait, la confrontation aussi au regard de l'autre, d'être face à face, ça change l'implication peut-être physique et intellectuelle dans ce qui se passe.
Ben oui, tout à fait, hein. L'éducation populaire, c'est une dimension qui est très présente à l'échelle de notre département, mais aussi dans les cours, et puis même dans la vie professionnelle après, par la suite. Dans l'animation, c'est quelque chose qu'on voit très souvent et ça permet de faire plein de choses.
Alors, venons-en quand même à votre projet qui s'appelle, il me semble, la bande passante. Alors, pourquoi ce nom et de quoi il est question ?
Alors la bande passante, donc on s'est questionné très longtemps pour choisir un nom à notre projet. La bande passante, ça a plusieurs sens. Déjà, c'est le fait dans le numérique de transmettre une quantité d'informations plus ou moins rapidement selon le réseau. Donc nous, on a essayé de transmettre quelque chose avec notre projet et d'apprendre aussi des jeunes qui nous transmettent quelque chose. Donc du coup, c'était cette justification-là. Et puis la bande passante, c'est aussi nous, on est une bande. On a un projet étudiant qui est temporaire. Malheureusement, c'est un peu difficile de le tenir dans le temps. Et du coup, on s'est dit qu'on avait juste une bande qui allait passer. Et puis, on est sur un public de MNA, donc c'est des jeunes migrants non accompagnés. Des MNA, c'est...
jeunes mineurs accompagnés.
Mineurs non accompagnés. C'est ça. Et donc, c'est un groupe qui passe aussi. On espère pour eux vraiment que ce soit très temporaire comme situation et qu'ils fassent que passer à Utopia 56, là où nous faisons notre projet.
Alors, vous êtes, donc, on le rappelle, un 7 étudiant en deuxième année de carrière sociale, option ASSC. Alors, c'est quoi ASSC ?
Animation sociale et socioculturelle.
Voilà, vous l'avez sûrement déjà dit, mais... pédagogie de la répétition, n'est-ce pas ? N'hésitons pas à redire les choses. Et est-ce que vous voulez préciser qui sont ces MNA, en fait ? Parce que peut-être que pour vous, c'est évident, puisque vous avez construit ce projet avec eux, mais peut-être que ça ne l'est pas pour nos auditeurs.
Alors, les jeunes avec qui on travaille, ils ne sont pas considérés comme MNA, ils sont plus en attente, en fait, d'évaluation et en attente de statut pour avoir le statut d'MNA. Mais ils sont au sein de l'association et ils sont dans l'attente en fait de statut. Ils n'ont pas encore d'évaluation en fait du département.
Ou alors ils sont en recours, c'est-à-dire qu'ils en ont eu, et c'est-à-dire qu'ils ont été reconnus comme majeurs, sauf que eux ils se déclarent mineurs, donc ils ont fait un recours pour être déclarés comme mineurs. Et c'est l'association Utopia 56 qui les aide dans ces démarches-là. Alors, il y en a beaucoup qui viennent d'Afrique, des anciennes colonies, ils parlent français. On a aussi d'autres, plus marginalement, qui viennent d'autres pays.
D'Europe de l'Ouest aussi.
Ouais, c'est ça. Là, on a un groupe de Bangladais aussi qui vient à nos ateliers. Par contre, du coup, ces jeunes Bangladais ne parlent pas français, donc on communique en anglais. Sinon, voilà, majoritairement, ils viennent d'Afrique et des anciennes colonies françaises particulièrement.
Voilà, donc là, on voit déjà que les personnes avec lesquelles vous avez travaillé, c'est des jeunes gens qui ont à peu près le même âge que vous.
Oui, oui. Bah oui.
Voilà, donc là, on est dans, puisque vous parliez d'éducation populaire, il y a aussi l'idée de transmettre un savoir entre pairs, puisque vous avez le même âge, vous êtes dans la même classe d'âge, en fait.
Oui, totalement. Oui, oui. On le ressent, et puis...
Est-ce que vous voulez dire un mot sur Utopia 56 ? Alors, c'est quoi Utopia 56 ?
Utopia 56, c'est... Donc 56, ça vient du siège d'Utopia qui a été créé, donc je crois que c'est en Bretagne. Mais donc Utopia à Tours, en tout cas, il n'y a qu'un petit local. Et ça fait un an, je crois, qu'ils ont le local. Avant, ils se déplaçaient dans la rue. Et ils n'avaient pas de structure, en fait. Et Utopia, c'est que des bénévoles. Il n'y a pas de salariés, il y a deux services civiques. Et ils viennent en aide aux personnes venant d'autres pays, dans la précarité, qui nécessitent des besoins spéciaux. Par exemple, là, ils ont mis en place une école alternative depuis peu pour essayer de scolariser les personnes bénéficiaires de l'association.
Notamment ceux qui sont en attente d'être dans le système scolaire français, qui n'y ont pas encore accès. Et du coup... Pour essayer qu'ils aient accès à cette éducation le plus vite possible, Utopia a fait la démarche de créer une école alternative.
Voilà, donc on le redit, hein, ce sont des bénévoles qui s'engagent pour défendre une idée qu'ils ont des droits humains, en fait, je pense, de la société civile, voilà, qui veulent s'impliquer dans la défense des droits humains. Est-ce que c'est vrai ? Ça vous semble juste ?
Oui, totalement. Et puis on voit qu'ils sont très impliqués, par exemple le local dont on parlait, comme ils ont très peu de financement, chaque bénévole met une petite somme d'argent chaque mois pour la location du local, pour qu'ils aient un lieu pour accueillir les jeunes, et je trouve ça vraiment très beau.
Et c'est aussi des gens donc, qui se posent la question de l'accueil des jeunes, de l'aide administrative, mais aussi de répondre aux besoins primaires, hein, donc de manger, d'avoir un toit, parce qu'on peut le redire que certains de ces jeunes gens, malheureusement, ont quand même passé un bon moment dehors, dans la rue.
Donc, oui, et le sont aussi toujours une fois en France.
Oui, là, Utopia... s'organise avec des bénévoles pour donner des repas le soir notamment pour ces jeunes, des kits des fois d'hygiène aussi le plus possible avec les dons qu'ils ont. Là en ce moment il y a un calendrier de l'avant inversé, c'est-à-dire que chaque jour nous on essaye de mettre un petit peu de ce qui... Ils ont créé un calendrier qu'ils ont partagé sur les réseaux sociaux et chaque jour, ils demandent, par exemple, des gels douche, des déodorants. Et au 24 décembre, après, ce sera redistribué aux jeunes bénéficiaires de Utopia.
Alors, comment vous avez été à la rencontre d'Utopia pour leur proposer ce projet ? Parce que c'est pas simple quand même. C'est des gens qui sont très investis, peut-être qui peuvent aussi avoir une certaine méfiance en fait quand on arrive plein de bonne volonté, on a envie de faire des choses, mais ils ont quand même un regard, ils prennent soin de ces jeunes, donc on peut pas proposer n'importe quoi. Comment vous avez été les rencontrer?
Dès le début de notre projet, donc on avait dans l'idée de faire du numérique, en fait axer le numérique et la culture en fait auprès du public. Donc au début on était parti sur les MNA, mais on a changé sur les jeunes et les jeunes migrants. Et donc, on a découvert l'association Utopia à ce moment-là. Et on a découvert qu'ils avaient fait un appel, en fait, et recherché des bénévoles pour faire des ateliers autour du numérique, en fait, avec ce public. Donc, nous, ça rentrait complètement dans notre projet, en fait. Et on a eu un entretien, en fait, avec une bénévole de l'association qui a de suite été emballé par notre projet et qui nous a fortement soutenus, ce qui a construit en fait vraiment la base de notre projet par la suite, parce qu'ils nous ont de suite fait confiance, carte blanche sur tous les ateliers qu'on pouvait leur proposer aux jeunes. Et après, on s'est basé essentiellement sur leurs attentes et sur un peu les demandes universitaires pour le projet, et on a réalisé les séances en fait avec le public.
Alors, il y a d'autres partenaires aussi sur ce projet. Donc, vous avez travaillé en lien étroit avec Utopia 56, mais vous avez sollicité d'autres structures. Alors, c'était qui ces autres partenaires ?
Par exemple, la Croix-Rouge. C'est-à-dire qu'avec la Croix-Rouge, on avait des dons alimentaires parce qu'en fait, pour nos séances avec les jeunes, on faisait nos séances sur le numérique et à la fin, on faisait toujours un petit goûter bilan en fait sur le retour de notre séance, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils voudraient qu'on travaille plus, etc. Et donc, nous, on a essayé de faire fonctionner le système des associations sur Tours pour essayer de, nous, dans notre travail et pour avoir de l'expérience là-dedans, essayer de créer des partenariats, etc.
De valoriser le don
et, ouais, c'est ça.
Et pas les subventions en premier temps.
Ouais.
Et du coup, on a contacté la Croix-Rouge, qui par la Croix-Rouge, en fait, on est... Comme la Croix-Rouge est conventionnée avec la Banque Alimentaire, on a pris contact avec la Croix-Rouge pour passer à la Banque Alimentaire et recevoir des dons de denrées alimentaires gratuitement.
C'est ça. Il y a aussi la ressourcerie. Pour la ressourcerie, c'est surtout du prêt de matériel numérique. On a eu des ordinateurs, des souris, ça nous a beaucoup servi. On a fait beaucoup de traitements de texte avec les jeunes, ils avaient très envie d'écrire en français. Et du coup, on a fait beaucoup de traitements de texte et ça nous a beaucoup servi. Voilà.
On a aussi un partenaire, le local du 13, qui est situé au Sanitas. Et on a fait deux séances avec les jeunes dans ce local-là, où on a eu accès à une brodeuse numérique. Ils ont pu faire des t-shirts, à l'imprimante 3D, la découpeuse vinyle, qui est un système de découpeuse de stickers, en fait,
ouais.
Où ils ont pu créer des autocollants par le biais d'ordinateur, et donc tout ça en utilisant toujours, en gardant en fait l'aspect du numérique présent.
Et on s'est tourné vers le 13 parce que c'est un lieu où ils pourront revenir après notre projet, où on leur a montré un lieu où ils pouvaient vraiment utiliser pratiquement le numérique, les ordinateurs, etc. Et on trouvait ça très intéressant que puisse être pérenne dans le temps.
Voilà, donc le 13, on rappelle que c'est quartier du Sanitas, hein, c'est sur la place Neuve. Mesdames, je vous propose de faire une première pause musicale pour qu'on puisse reprendre un peu notre souffle et parler après plus en détail de votre projet, puisqu'il y a eu plusieurs séances d'atelier jusqu'au temps fort qui se tient cet après-midi et j'aimerais bien que vous nous en disiez plus. Mais tout d'abord, on va écouter Orange Blossom à Bibi. On se retrouve tout de suite après dans la Méridienne.
Thank you.
Orange Blossom sur Radio Campus Tours. Vous écoutez toujours La Méridienne avec moi en studio, Mathilde et Ottilie, étudiantes en carrière sociale, venues nous présenter leur projet La Bande Passante et Bérénice, notre stagiaire de 3e. Alors mesdames, ce projet La Bande Passante, il a comporté 9 séances d'atelier avec les jeunes gens accompagnés par Utopia 56. Est-ce que vous voulez nous en dire plus ? Ça a consisté en quoi ces 9 ateliers ?
Ces 9 ateliers, ils sont très variés les uns les autres. On a commencé les premiers ateliers à faire un peu de la découverte avec eux du numérique et un peu se baser en fait sur leurs attentes. Donc on a commencé par des petits jeux de connaissances, des choses très ludiques pour essayer de découvrir un peu ce qu'ils aimeraient faire. Mais bon, ces premières séances étaient assez compliquées parce qu'on ne les connaissait pas, ils ne nous connaissaient pas non plus. Donc on ne savait pas trop comment gérer tout ça. Et en fait, à l'issue des séances, on a pu vraiment s'adapter à eux, créer des choses qu'ils avaient envie de faire. On s'est rendu compte qu'ils étaient très très motivés en fait à utiliser l'outil informatique qu'est l'ordinateur, parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont aucune connaissance sur cet outil-là. Alors qu'à l'inverse, le smartphone, le téléphone, tout ça, ils en ont tous un quasiment. Ils savent très bien s'en servir, les réseaux sociaux aussi. Bon, après, s'en servir, c'est large. Hein. L'utilité qu'ils en font n'est pas forcément la meilleure. Mais en tout cas, on a beaucoup axé nos séances en fait, sur l'ordinateur avec pour la plupart un besoin. En fait, ils avaient vraiment une envie d'apprendre et pas tant de... Parce que nous, on avait envie d'apporter en fait, cet apport un peu ludique, faire des petits jeux autour du numérique. Donc, par exemple, faire des jeux sur Internet pour leur faire découvrir des sites, des choses comme ça. Et en fin de compte, eux, ils étaient vraiment dans... Il y en avait quelques-uns qui étaient vraiment dans l'envie en fait, d'apprendre et de faire, par exemple, des cours de français sur l'ordinateur, de faire de la géographie, tout ça pour vraiment garder cet aspect de scolarisation en fait, par la suite. Donc voilà, on avait toujours... Donc ces séances étaient découpées par des petits ateliers. Et toujours à la fin de la séance, on faisait un gros moment où on faisait un goûter, où on partageait des choses, on discutait, on mettait de la musique, on dansait. Et la plupart de nos séances se découpaient comme ça.
C'est ça. Voilà. Deux heures avec du contenu et après le goûter. Et ce que ce soit à Utopia, au 13, ou même ils sont venus à l'IUT... dans la salle informatique.
Ouais, c'est ça.
Alors, comment vous avez réussi à construire ce rapport dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire une idée de rapport horizontal et pas vertical, sachant que vous arriviez quand même avec une étiquette, qu'on le veuille ou non, d'étudiant en carrière sociale face à des jeunes gens qui aspirent à faire des études. Donc, du coup, comment on instaure quelque chose de vraiment participatif pour leur montrer que vous n'êtes pas détenteur d'un savoir complètement au-dessus du leur? Comment vous avez construit ce lien-là?
Ça a été compliqué, ouais. Et ça l'est toujours, je pense, parce que pour eux, on est leur professeur. C'est comme ça, certains que même ils nous appellent. C'est-à-dire que pour nous interpeller, des fois, c'est « Oh, mon professeur, oh, ma professeure !» C'est compliqué d'essayer d'avoir quelque chose d'horizontal, même si on arrive particulièrement dans dans la danse, par exemple, ils nous apprennent beaucoup. Mais c'est vrai que dès qu'on va sur les ordinateurs, etc., l'horizontalité, elle est un peu difficile.
Ouais, ça a été beaucoup remis en cause, en fait, entre membres du groupe. On a beaucoup discuté de cet apport, en fait, qu'on vient avec des connaissances en tant que bon petit blanc à donner quelque chose, en fait, de un peu plus que eux, en leur donnant notre culture, alors que c'était pas du tout ça la base de notre projet. On avait vraiment envie de partager, en fait, la culture, que ce soit nous, notre connaissance, et eux, la leur. Et d'échanger comme ça. Et donc ouais, c'est vrai que à chaque fois dans les ateliers, c'est un peu remis en cause. Des fois, ça va très bien. Et d'autres, on voit bien que l'apport reste assez vertical.
Ouais. C'est un peu compliqué à vivre pour nous, parce que c'était vraiment l'intention qu'on y mettait, de l'horizontalité. Et quand on voit que c'est difficile à mettre en pratique, c'était un peu frustrant, ouais.
Mais alors là, en plus, vous tombez dans, comment dire, quelque chose qui peut être un peu décevant pour même les personnes qui veulent faire des projets humanitaires avec plein de guillemets, c'est de se rendre compte qu'en fait, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui donne. Qu'on le veuille ou non, en fait. Le fait de pouvoir donner, ça donne un pouvoir. C'est celui qui fait une fête, celui qui invite, c'est celui qui a le pouvoir, quelque part. Et donc, ça aussi, de faire comprendre aux jeunes gens en face de vous qu'eux aussi, ils ont des choses à donner, même s'ils ne le mesurent pas. En fait, même si peut-être qu'ils ne mesurent pas à quel point ça vous intéresse d'apprendre à danser, d'apprendre à chanter, d'apprendre aussi d'où ils viennent, parce que, à moins vraiment de s'être penché sur la question, je pense que la plupart des gens qui vivent en France ne sont pas forcément très bons en géographie des pays d'Afrique. Donc,
Oui.
Oui, on a vu ça particulièrement une séance où on est allé sur Google Earth et donc on leur a jamais posé la question de où ils venaient ou quoi que ce soit parce qu'on s'est dit qu'on n'était personne pour leur demander, mais là il y en a beaucoup, enfin tous ceux qui sont allés sur Google Earth presque, qui nous ont dit d'où ils venaient, ils nous ont montré leur pays, le pays d'où ils venaient, la ville d'où ils venaient, c'était vraiment très touchant et on a vraiment appris, on était vraiment sur un échange, même sur le numérique. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup plu.
Ouais, parce qu'il faut savoir qu'on avait discuté du coup avec la bénévole d'Utopia et en fait, leur histoire, ils la racontent à tout le monde, tout le temps. Tout le monde leur pose la question en fait, de où ils viennent, comment ils sont venus ici, etc. Et du coup, ils sont tout le temps en fait, avec ces questions-là. Et nous, on avait fait le choix de pas du coup en leur en parler, de pas lancer en fait, leur poser la question de où ils venaient et que s'ils avaient envie d'en parler, ils pouvaient nous en parler. Et que nous, on faisait le choix de pas forcément leur demander. Et cette séance-là a été très, pour le coup, très intéressante parce que, en fait, c'était une des dernières séances à peu près. Et,
7e, je crois, à peu près, ouais.
Ouais, c'est ça. Et ils étaient. Donc, on voyait en fait vraiment qu'en fait, au fur et à mesure des séances, ils ont pris plus de confiance. On voyait vraiment ce.
Il y a un lien qui s'est créé avec nous, voilà. Et c'est là où on a vu que c'était assez fort pour qu'ils nous parlent d'eux-mêmes, de leur histoire, de leur pays.
Montrer là où ils habitent précisément. Et ouais, c'était.
Et ça nous a conforté dans l'idée que c'était pas à nous de poser la question, mais c'était à eux d'en parler s'ils le voulaient. Et qu'ils ne l'ont pas tous fait. Et on a totalement respecté ce choix. Et c'était vraiment agréable que ça vienne d'eux. Et pas qu'on les force à parler de leur histoire alors qu'ils l'ont déjà répété plein de fois, quoi.
Voilà, et c'est vrai que là, il y a une idée de comment on crée un lien de confiance aussi. Parce qu'après tout. Ces jeunes gens, ils pouvaient aussi se demander légitimement, mais pourquoi vous avez tellement envie de travailler avec eux? Est-ce que vous allez encore leur poser ces questions que tout le monde leur pose, mais que ce soit, comment dire, l'administration française ou alors des gens parce qu'ils sont curieux, mais comme la question se répète sans cesse, au bout d'un moment, c'est pesant peut-être aussi d'être résumé à « je suis un jeune migrant ». Peut-être qu'ils en ont, je comprends ce que vous dites, peut-être qu'ils en ont marre qu'on les résume sans cesse. Au fait d'être un jeune migrant, mais à côté de ça, ils ont aussi envie de partager qui ils sont. Donc,
à la fois, c'est leur histoire de vie aussi. C'est avant la France où ils sont venus très récemment. Ils ont, ils ont leur histoire dans leur pays et c'est quand même fort dans leur vie. Ça prend une part très importante et je pense qu'à un moment, ils ont besoin d'en parler, mais c'est le moment où eux ils décident, voilà.
Ça dépend desquels. Il y en a qui ont vraiment une volonté en fait, de partager et d'autres qui sont plus dans le rejet, dans le déni de leur origine pour vraiment en fait, être français.
Oui, des fois on les entend parler entre eux. Ouais. On est en France, on parle français.
Ouais. Et des remarques comme ça qui sont.
Entre eux, ouais.
Mais après tout, pourquoi? C'est vrai, ça me fait penser à Maboula Soumaoro, donc, qui est maîtresse de conférence à l'université de Tours. Et qui dit parce qu'elle a la peau noire, pourquoi c'est aussi compliqué pour les gens de penser qu'elle est française? Et alors qu'elle l'est. Et en fait, elle dit pourquoi c'est aussi compliqué pour les gens de penser que je suis française? Et donc ça me fait écho à ça, ce que vous dites, des jeunes gens qui disent mais on est en France, on veut parler français, on veut être français. Et donc c'est compliqué. Peut-être que vous aussi, ça, comment dire, humainement, moralement, peut-être que c'était pas facile pour vous de vous retrouver face à ces réalités-là. Peut-être que vous ne les aviez pas supposées en inventant votre projet.
C'est notre réalité un peu du moment où on se dit que en carrière sociale, on est un peu dans un entre-soi où quand on sort, on se prend une réalité dans la tête qui est un peu compliquée parce que nous, on a conscience de ces choses-là. On essaye de sortir un peu de ces stéréotypes, etc. Mais quand on sort de notre campus,
on a un collectif qui est quand même assez. Enfin, on est très sensibilisés sur plein de choses et sur toutes ces questions-là. Et c'est vrai qu'une fois qu'on on sort du cocon en fait du département, on se rend compte que en fait la réalité elle est bien loin de tout ce qu'on pense et de tout ce qu'on, en tout cas on est sensibilisé à ça et
on se dit nous on avance, on essaye d'aller de l'avant, que ce soit sur plein d'autres sujets, que ce soit par exemple sur l'écologie ou etc. On se dit oui les choses avancent et puis en fait quand on sort un peu de là ça devient un peu compliqué.
Mais même comment dire, parce que avec toute la meilleure volonté du monde, avec toutes vos convictions, vous avez pensé ce projet avant de le mettre en place. Et en fait, de vous heurter à cette réalité, de vous rendre compte aussi que dans la demande qu'avaient ces jeunes gens, ils ont des préoccupations complètement différentes de celles que vous aviez supposées, où vous arriviez peut-être, en tout cas sur une partie de l'atelier, comme vous disiez tout à l'heure, de faire quelque chose d'un peu ludique, sympathique, et en fait, leur demande, c'est « je veux apprendre le français ».
Ouais. Ouais. Bah, notre projet a vraiment connu des évolutions pour le coup.
Ah, ça, c'est
du début à la fin, on est toujours en train de changer et s'adapter vraiment à eux, parce que c'est un peu le but de notre projet, c'est pas vraiment d'amener quelque chose pour eux, mais plus de travailler avec eux et de faire ça, quoi.
Et c'est comme ça qu'on s'est adapté, même si ça nous a du coup un peu questionné sur notre démarche, mais dès qu'ils veulent vraiment apprendre le français, le traitement de texte, on pensait pas en faire autant, vraiment. Le premier jour, on s'est dit, oui, le traitement de texte, c'est bien, mais ça, c'est redondant, c'est lent, enfin voilà. Et puis on a dit, on va faire des jeux vidéo à côté, on va faire deux parties. Et puis en fait, la plupart, ils n'ont pas du tout fait de jeux vidéo parce qu'ils avaient envie d'écrire en français. Et ils ont mis une heure et demie à écrire en français sur le traitement de texte parce qu'ils voulaient vraiment apprendre ça. Moi, je me rappelle que la première séance que j'ai faite avec un jeune, il m'a dit « je veux apprendre à écrire France, ça fait un an que je suis en France, je veux apprendre à écrire France ». Et il a effacé et réécrit au moins 10 fois « France » pour apprendre à l'écrire.
Ça, c'est moralement, ça doit être quelque chose à vivre. Là, comment ça va vous aider pour construire de nouveaux projets, cette expérience-là ?
Moi, ça m'a... Je sais pas comment dire. J'ai pas encore pris le recul, je pense, sur le projet. Il est tout... Enfin, il vient juste de finir, donc je sais pas encore quel impact ça va avoir. Mais ça a été un gros plus, une belle expérience. J'ai très envie de retravailler avec ce public. Et je me suis... Enfin, ils ont une envie d'apprendre et une envie de partager qui est hyper intéressant. Et pour moi, en tout cas, j'ai très envie de les revoir, retravailler avec eux. Voilà.
C'est là, je pense, tout l'intérêt des projets universitaires qui sont proposés en fait, au sein du département. Ça nous permet en fait, d'enrichir nos expériences et expériences humaines aussi, parce qu'en soi, c'est quelque chose de très fort qu'on a pu faire. Et après, chacun a son propre projet, mais nous, on l'a mené avec un public qui est assez sensible, où on a été, je pense, très sensible à ça. Et ouais, ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses et de découvrir, et on a encore plein d'autres choses à apprendre.
Oui, c'est ça, le département, avec les projets que nous propose le département, c'est vraiment... L'animation sociale, c'est très large, c'est sur beaucoup de publics, et ils nous apprennent un peu à voir quel public pourrait plus nous correspondre que l'autre. Et c'est vrai que, par exemple... Pour faire mon comparatif personnel, EHPAD et jeunes migrants à Utopia, c'est vrai que je me suis éclatée avec les jeunes migrants à Utopia, même si mon travail m'a beaucoup plu aussi en EHPAD, mais je trouve que ce public me correspond mieux et je pense que c'est là la force de la formation aussi.
Mais ça veut dire qu'on est secoué quand même dans ce genre d'études, parce qu'on arrive peut-être avec des convictions, des envies, voire des certitudes, et en fait on est... faut accepter aussi de prendre ce risque quand on entre dans cette formation.
Oui, totalement. Je pense que chacun a vu sa vision de l'animation et du social bouleversée. Vraiment, c'est sûr. Déjà, moi au début, animation, c'était le BAFA et les centres de loisirs. Voilà, et je suis vraiment arrivée. Je me suis dit, waouh, il y a tellement de trucs à faire. C'est trop bien. En fait, c'est vraiment ce qui me correspond. C'est pas que les enfants. Il y a tellement d'autres choses, en fait, qui sont là. Tellement d'autres publics pour lesquels on peut intervenir.
En fait, c'est aussi grâce à eux que vous allez être les professionnels que vous serez.
Ah oui.
C'est eux qui vous rendent professionnels.
Ah oui, c'est avec les expériences qu'on a fait avec eux. On a vu que ça fonctionnait pas, donc on refait certaines approches, certaines expériences. Et on dit, bah non, on va refaire et on voit comment adapter notre animation et comment se remettre en question pour mieux se professionnaliser.
Donc la pratique avant la théorie.
Ça, bon, c'est un peu des deux.
Un peu des deux.
Parce qu'en soi, on a ce projet-là qui est mené, mais en parallèle, on a toute la théorie qui arrive aussi.
Ah oui, la théorie prend une grande place, elle est très pluridisciplinaire. Et ça nous aide beaucoup. C'est vraiment les deux à la fois, je pense.
En soi, oui, de la pratique, on en a beaucoup moins. On peut voir, par exemple, dans d'autres formations comme BPGEPS ou quoi, où là, la pratique est très essentielle. Carrière sociale, la pratique est moins forte avec
c'est
les stages
et
quelques projets dans l'année. En soi, on a beaucoup plus de théorie.
Oui. Mais on a notamment un mémoire à rédiger. C'est très, très universitaire, très théorique.
Mais nécessaire.
Oui, mais nécessaire.
Ouf, les profs reprennent leur souffle. Avant de parler plus en détail du temps fort qui se tient cet après-midi, je vous propose de faire une nouvelle pause musicale et nous allons écouter Hadouk Trio, le bal des oiseaux. On se retrouve tout de suite après dans la Méridienne. Thank you. Les excellents Hadouk Trio sur Radio Campus Tours, vous écoutez toujours La Méridienne. Mes invités Mathilde et Ottilie, étudiantes en carrière sociale, sont toujours là, ainsi que Bérénice, notre stagiaire de 3e. Alors, mesdames, comme vous le disiez tout à l'heure, ce projet, la bande passante, se termine, et il se termine en beauté par un temps fort cet après-midi. Alors, que va-t-il se passer ?
Alors, on a essayé de faire quelque chose le plus représentatif de nos séances. Donc, on fait différents petits ateliers, différents petits spots, on va dire. Donc, on va pouvoir voir une exposition des photos qu'on a pu prendre pendant toutes nos séances, des travaux, on peut dire ça comme ça, des jeunes, comme ce qu'ils ont fait au 13 avec des t-shirts, ce qu'ils ont imprimé en 3D. Il y a aussi donc un petit stand jeux vidéo. Comme ils ont adoré écrire en français sur le traitement de texte, on a fait un concours de dactylographie, pour écrire le plus rapidement possible. Qu'est-ce que j'oublie, Ottilie ? On a un petit buffet aussi, c'est important de manger.
Mmh. Un espace de jeux de société aussi.
Oui.
Un espace.
C'est un jeu de société, ouais. Sur les réseaux, enfin sur le numérique en général. Des petites questions, voilà, qu'on a réussi à.
Sur la protection et les dangers en fait liés au numérique. On a un espace, je sais pas si tu l'as dit. Où on présente en fait notre site internet.
Ah oui, aussi.
Parce qu'en fait, notre projet en fait se base sur le site internet. On a créé un site internet avec un site wiki, en fait, c'est un site participatif.
Yes, wiki, ouais.
Et donc, ce site internet-là permet donc aux jeunes et nous de partager en fait tout ce qu'on a pu faire pendant les ateliers et de garder une trace en fait par la suite. Donc, il s'appelle La Bande Passante, tout le monde peut le trouver. Et donc, ce sera. Le temps là où on pourra le présenter en fait aux professeurs et aux partenaires qui seront présents cet après-midi et donc voilà, c'est
pour le trouver. Donc il faut aller sur la ferme Yes Wiki et aller chercher La Bande Passante et vous pourrez trouver notre site qui valorise toutes nos activités, le projet, les jeunes et voilà. On a fait un choix, je pense que c'est important d'en parler, de flouter les photos aussi. On voit pas les jeunes pour des raisons assez évidentes par rapport à leur situation. Voilà. On a enlevé leur identité.
Les protéger plutôt.
Pour les protéger, ouais.
Voilà, donc ce temps fort, on le redit, que les jeunes participent à l'accueil du public. Ils sont voilà, avec vous. C'est un événement qui est co-organisé avec eux.
Oui, alors c'est vraiment pour répondre. Ça, c'est plus. Le temps fort, en fait, c'est vraiment l'évaluation, entre guillemets, finale de notre projet. Et donc là, il y aura les professeurs. Et donc, on se base sur des consignes universitaires où, en fait, on doit mettre les jeunes, ou du moins notre public, en situation d'animation. Et donc, qui doit animer un autre public, en fait. Donc, nous, les jeunes, devrons. Présenter tout ce qu'ils ont pu faire pendant les ateliers, donc aux partenaires, au public qui sera présent. Et aussi aux professeurs et nous en même temps. Mais on sera là forcément pour les aider. On va pas les laisser comme ça, bien sûr.
Oui, oui.
On sera là avec eux. Voilà. Et ils seront là pour présenter ce qu'ils ont fait. On a déjà répété avec eux, travaillé sur ça. Après, c'est ce qu'ils ont fait durant toutes les séances. Donc en soi, ils savent un petit peu ce qu'ils ont à faire et ça va bien se passer.
Et ils font ça selon leurs envies, leurs compétences et pour qu'ils soient le plus à l'aise possible. Ils seront à la table de Jeanne-Marie, lieu qu'ils connaissent, soient les plus à l'aise possible.
Ah, la table de Jeanne-Marie, mais parlons-en. Alors, c'est où et ça consiste en quoi ? Parce que c'est pareil, hein. Peut-être que tous les auditeurs ne le savent pas.
La table de Jeanne-Marie, c'est un lieu en fait, qui du coup, donne à manger. Enfin, c'est un lieu de restauration en fait, pour ces personnes, le midi essentiellement, parce que le soir, ils mangent à Utopia. Ouais. Et donc. Ces locaux se trouvent dans le Hamac de Touraine, l'association Hamac de Touraine. Et on a découvert cette association-là vraiment un peu au dernier moment. On a dû se repencher sur une nouvelle structure pour nous accueillir en fait cet après-midi. Et la table de Jeanne-Marie a été de suite très emballée par notre projet. Et donc on a pu. On va pouvoir en fait dérouler notre temps fort cet après-midi dans ces locaux.
Donc c'est rue Febvoet, et c'est de quelle heure à quelle heure votre atelier? Quand est-ce qu'on...
C'est à 14h30, ça commence à 14h30.
Et ça finit,
et ça finit ouais, vers
à 16h15.
C'est ça.
Donc, auditeurs, rendez-vous là-bas si vous le pouvez, bien sûr. Et le wiki, hein, vous l'avez dit, reste en place à l'issue de votre projet. Comment il va se poursuivre? Comment il va continuer à s'alimenter, peut-être, ce wiki?
Donc, ça, le YesWiki, c'est une plateforme participative où, nous, on l'a protégé, c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire sur la page pour pouvoir modifier. Voilà. Et donc, les jeunes se sont inscrits et ont fait des pages à leur image, c'est-à-dire que certains ont parlé de foot, par exemple. Ils ont appris à modifier le site et pour l'alimenter par la suite. Pour qu'il y ait une trace de notre projet. Il y a des tutos aussi pour s'ils ont oublié quelques points sur le numérique, etc. On a essayé de rendre ça le plus à l'image de notre projet.
Ouais, il faut savoir que c'est des jeunes qui n'ont jamais, pour la plupart, touché à des ordinateurs. Et le site internet a permis aussi qu'ils aient les premiers pas, en fait, dans l'utilisation du numérique. Et donc aussi, par le biais d'internet, ils ont pu appréhender le site, l'utiliser pour certains d'entre eux et mettre des photos, des loisirs qu'ils aiment sur ces pages-là. Ils ont leur page avec leur prénom et voilà, ils ont pu s'appréhender vraiment du site. Et donc, par le biais de l'outil informatique aussi, et ça a permis de réaliser des choses sur le site. Et le site, on espère que par la suite, à la fin de notre projet, il soit continué, même si... ça va être compliqué pour nous, on essaiera de...
Même pour eux, au niveau de l'accessibilité aux ordinateurs, c'est assez compliqué. Mais ouais. On espère vivement que ça sera encore alimenté.
Mais est-ce que le 13, justement, peut pas être une ressource sur ce point-là? Est-ce que pour qu'ils puissent continuer à alimenter, c'est pas vraiment un blog, mais du coup qu'ils puissent collectivement continuer à travailler sur ce wiki? Est-ce que le 13 peut pas être un lien?
Bien sûr, là-bas, ils peuvent avoir accès à des ordinateurs. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas la fonction du 13 non plus, dans le sens où ils ont vraiment envie de donner accès aux personnes à des machines qu'ils ne pourraient pas avoir chez eux, parce que c'est des machines qui sont extrêmement chères et que je pense que les particuliers ont rarement ça chez eux, et c'est pour ça aussi qu'ils sont là. Donc, je pense que ça poserait pas problème qu'ils aillent sur le wiki, sur les ordinateurs, bien au contraire, mais je pense que s'ils y vont, ce sera aussi beaucoup pour pratiquer sur les machines. Et c'est ce qui leur fait plaisir aussi quand ils vont au 13, c'est qu'ils ont adoré les machines.
Voilà, donc là, peut-être qu'il faut trouver peut-être le centre social pluriel ou quelqu'un, en tout cas, pour continuer cet élan que vous avez impulsé.
Ouais. On fait l'évaluation de notre projet en ce moment et je pense que c'est un point dont on va parler. C'est un point qui nous pose question de la pérennité du projet. Et c'est ce qui nous embête aussi, c'est le côté temporaire du projet. Donc c'est une question qui nous parle.
C'est un projet qui est un peu remis en cause, surtout à la fin du projet. En fait, c'est d'amener quelque chose et de construire en fait, avec les jeunes pendant 3 mois et qu'à la fin en fait, de l'évaluation... universitaire, on se retrouve à les laisser du jour au lendemain. Ils se retrouveront sans nous, sans les ateliers qu'on a pu leur proposer pendant des mois. Mais on espère pouvoir continuer, même si on verra bien.
Ça va être compliqué aussi pour nous, dans notre temps personnel, avec le travail qui nous reste à faire, le mémoire, etc. Ça va être compliqué pour nous de continuer le projet, mais on va essayer de trouver des structures peut-être qui nous aident à continuer le projet.
Bon, et ben en tout cas, vous serez les bienvenus si vous souhaitez nous donner des nouvelles de ce projet. Grand merci à vous, Mathilde et Ottilie. Je répète que vous êtes étudiante en carrière sociale à l'IUT de Tours. Merci à vous d'être venue présenter ce projet Bande Passante. Et avant que cette émission se termine, vous disiez tout à l'heure hors antenne que ça bouge un peu à l'IUT de Tours dans le contexte sociale que nous connaissons. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'IUT de Tours?
À l'IUT, à l'échelle en tout cas du département, on essaye de se mobiliser, de faire des temps participatifs avec avec des cafés, une petite cagnotte, pour essayer de discuter un petit peu et sensibiliser les personnes un peu sur les mouvements sociaux actuels, sur la réforme des retraites, la précarité étudiante,
tout ce qui touche, chômage, ouais.
Ouais, voilà, tout ce qui touche un peu aujourd'hui. Et donc à l'échelle du département, on a déjà réalisé quelques réunions d'information sur ces sujets-là, puis on a essayé de l'agrandir en fait. Aux autres étudiants des départements voisins de notre IUT en fait. On a créé des expositions avec des photos qu'on a pu faire en manifestation, des BD hein, qui informent sur la réforme des retraites qui est bien vulgarisée et qui permet de mieux la comprendre parce que c'est un sujet qui est quand même un peu complexe. Et donc on a créé donc, ces petits cafés participatifs pour essayer d'un peu d'attirer les autres étudiants sur ces questions-là. Et donc, ouais, ça commence un peu à essayer de bouger, du moins à l'échelle de l'IUT.
On voit que ça porte ses fruits. Il y a certains étudiants qui ont tendu des draps dans l'IUT avec des slogans. Il me semble que c'est bourse, combien d'immolations pour nos millions. Et l'autre, c'est... je crois, moins 50% sur vos retraites.
Ça.
Black Friday, moins 50% sur vos retraites, je crois que c'est ça.
C'est des choses qui essayent d'être, en fait... voilà, ça commence à prendre un petit peu plus d'importance, essayer de mobiliser un peu les consciences des étudiants et enseignants.
C'est que les carrières sociales ou vous sentez que ça essaime un peu quand même, que ça commence à bouger dans d'autres filières?
Je pense que ça commence un peu à, du moins, réveiller un peu leur conscience. On a déjà parlé avec d'autres départements et ils sont plutôt informés. Ils essayent de peut-être construire quelque chose par la suite avec nous. Il n'y a pas que les carrières sociales, il y a aussi les LP, les licences professionnelles, en fait, de l'IUT qui sont aussi pas mal engagés sur le sujet.
Mais on va essayer que plus de monde... participe au café participatif, justement. On va essayer de se mettre dans d'autres endroits dans l'IUT pour essayer de toucher plus de monde. On ne demande pas de prendre les pancartes et de venir manifester, mais juste de s'informer, discuter, apporter ce que chacun sait sur les réformes actuelles et vraiment créer de l'échange, de la discussion autour de ça.
Voilà, et n'oublions pas que la discussion, c'est aussi le droit de ne pas être d'accord, donc que ceux qui ne sont pas d'accord ne se privent pas pour le dire. Voilà, donc je rappelle que, évidemment, n'hésitez pas à solliciter la radio étudiante parce que nous sommes là aussi pour ça. Grand merci à vous, mesdames, d'être venues dans cette émission La Méridienne. Voilà, bonne journée et merci bien sûr aussi à Bérénice, notre stagiaire de 3e. Et on va se quitter en écoutant une petite musique. On va écouter Dimba d'Angola. Bonne journée à tous, à l'écoute de nos excellents programmes, rien que ça. Thank you.